EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Que signifie craindre Dieu ? Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle donnera des conseils aux femmes pour respecter leur mari comme il le mérite. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je sais, Jérémy, tu as hâte à la rubrique famille, je le sais.
Comment tu sais?
Tu vas devoir patienter. Ben, je le sais. Annabelle fait une rubrique en plus.
Sur moi.
Sur toi.
C'est lui qui l'a préparée.
C'est clair. Donc, je suis convaincue que tu n'attends que ça, mais il faut patienter 20 petites minutes quand même. Ça va aller?
Je vais attendre.
Ça va aller.
Je vais être patient.
C'est bien, bravo. Aujourd'hui, on va parler de la crainte de Dieu. Mm-hmm. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très, très bien compris, ou en tout cas, même si c'est bien compris, c'est pas toujours bien mis en pratique. Mm-hmm. Donc, on va voir ça tout de suite et on va commencer avec la pensée du jour. Frank Poulin, le titre de ta pensée, c'est l'importance de craindre Dieu.
Eh oui, Evelyne Lebeau, l'importance de craindre Dieu. La chose qui est importante de comprendre, mais en fait, la crainte de Dieu, ça devrait faire partie de la vie de tous les croyants. C'est hyper important. Et la crainte de Dieu va nous apporter dans une vie d'obéissance et une vie qui va être remplie de joie. La crainte de Dieu va produire ces deux choses et c'est la parole qui nous le dit, on va le voir tout à l'heure. Et ici, on ne parle pas de craindre Dieu d'une façon à avoir peur de Dieu, de ses jugements ou de quoi que ce soit. Ici, on parle de donner l'honneur à Dieu, de lui donner la révérence qu'il mérite pour qui il est, et de marcher en obéissance à ce qu'il nous a dit dans la Bible. Ça, c'est craindre Dieu, en fait. Et souvent, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que ça va être là au tout début de la vie chrétienne. Les gens, au tout début, ils vont prendre très au sérieux certaines choses dans le monde chrétien, la Sainte-Sainte, toutes sortes de choses. Mais à fur et à mesure que la vie va avancer, les gens deviennent familiers avec Dieu parce qu'ils se sont rapprochés de lui. Et au lieu de l'avoir respecté davantage en se rapprochant de lui, ils voient Dieu comme étant leur ami. Mmh. Dieu, c'est mon ami, ben Dieu, il est là, c'est mon père, et puis voilà, c'est comme ça. Ben, il l'a dit, mais c'est pas vraiment si important, en fait. Non, au contraire, de plus en plus qu'on se rapproche de quelqu'un, de plus en plus, on est supposé, justement, respecter cette personne dans sa position qu'il a ou qu'elle a dans la vie naturelle. Comme moi, Anne, ça fait à peu près un an, Anne, qu'on se connaît de plus en plus. Et Anne, de plus en plus que je viens qu'à la connaître,
Trois ans.
Mais oui, ça fait trois ans. Mais de plus en plus que je la connais, de plus en plus que je la respecte et je me dis « Wow, Anne, c'est vraiment toute une femme » parce que je la connais de plus en plus, je la respecte encore plus davantage malgré que je le faisais avant aussi. Mais Dieu, de plus en plus qu'on se rapproche de lui, de plus en plus on est supposé justement le prendre au sérieux. De plus en plus qu'on vient proche de lui, on est supposé l'honorer davantage parce qu'on vient qu'à voir sa grandeur. On vient qu'à goûter à sa bonté. On voit comment bon il est, comment il est un bon père, justement. Et on n'est pas supposé tomber dans cette familiarité. Donc, c'est très important de faire ça. Ceci dit, la parole nous parle, justement, de deux conséquences que la crainte de Dieu va produire dans nos vies. Et la première, on va le voir dans le psaume 128, le verset 2 à 4. La parole nous dit « Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Et Deutéronome 5, 29, « Oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Ici, ça nous parle d'être joyeux lorsqu'on craint Dieu. Ça parle d'obéir à sa parole. Et ça, c'est des choses qui doivent être là dans chacune de nos vies. Je veux revenir sur ce point très important. La familiarité, ça ne doit plus être là. Et comme j'ai dit, de plus en plus que vous vous rapprochez de Dieu, et même réfléchissez à comment vous étiez auparavant. Moi, je me rappelle comment j'étais au tout début, quand vraiment je me suis rapproché de Dieu. Toutes les choses, entre guillemets, deviennent saintes. Toutes les choses, tu prends au sérieux la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, tu la prends pour ce qu'elle vaut vraiment. Mais de plus en plus qu'on avance, de plus en plus, comme j'ai dit, on vient qu'on se relâche un peu plus vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, C'est très simple. Comme je l'ai dit, la crainte de Dieu va apporter l'obéissance et la joie. Et tout simplement, ça va être là parce qu'on va servir Dieu avec une conscience pure, comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul avait dit « Je sers Dieu d'une conscience pure ». Et quand on va obéir à ses commandements, on va servir Dieu et on va marcher dans cette façon de faire. On va lui obéir en toutes choses. On va plaire à Dieu. Notre conscience va être pure. Il n'y aura rien dans notre tête qui va nous accuser. On va être dans une joie surnaturelle dans le service qu'on va faire auprès de Dieu. Les deux vont main dans la main. Ça, c'est tout simplement comme ça. Des fois, on veut être très spirituel, mais ça peut être tellement simple parfois. Vraiment, si la crainte de Dieu est là, on vivra pas dans le péché, on va vouloir s'affectionner aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, et ça, c'est juste naturel, en fait, qu'un enfant de Dieu lui donne la révérence qu'il mérite. Et en terminant, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai remarqué personnellement, c'est que dans la vie de plusieurs hommes et femmes de Dieu que j'ai pu rencontrer depuis plusieurs années, j'ai remarqué que ces personnes, je sais pas comment le décrire, en fait, il y a pas de mots que je peux mettre pour ça, mais tu sens qu'il craint Dieu. Mm-hmm. C'est juste là. Tu es avec ces personnes-là et tu sens une crainte de Dieu. Ils prennent Dieu au sérieux. Ouais. Il y a la révérence pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ils ne jouent pas avec ce que Dieu a dit. Ils prennent au sérieux sa parole. Ils prennent Dieu au sérieux aussi parce que justement, comme je l'ai dit, ils se sont rapprochés. Et de plus en plus qu'on se rapproche de lui, de plus en plus, on est supposé justement le respecter, l'honorer et lui donner cette révérence-là. Ouais. Donc, comme j'ai dit, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme ça. Peut-être ça vous est arrivé aussi. Et une chose qui va main dans la main avec la crainte de Dieu aussi, c'est la sainteté. Ça, c'est autre chose, mais je voulais le mentionner parce qu'avec la crainte de Dieu va venir la sainteté aussi. Donc voilà, super important de craindre Dieu. Ça va vous apporter dans l'obéissance, dans une vie heureuse et épanouie. Il va y avoir de l'avancement à tout niveau et c'est super important, la crainte de Dieu.
Merci beaucoup, Frank. Pensée super claire et précise. La crainte de Dieu, j'aime beaucoup ce thème personnellement. Parce que tu l'as dit dans ta pensée, la crainte de Dieu amène un ordre en fait dans notre vie qui va se mettre en place d'une façon très simple en fait. Tu l'as dit, on spiritualise des fois beaucoup les choses. Pour arrêter de pécher, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut etc. Mais en fin de compte, quant à la crainte de Dieu, c'est comme une base, un fondement que tu mets dans ta vie chrétienne et tout ce que tu vas planter sur la crainte de Dieu va pousser droit. Donc quand tu crains Dieu, tu ne te compromets pas dans toutes sortes de péchés parce que tu sais que Dieu est là, Dieu te voit et que exactement. Dieu a en horreur le péché. Exactement. Quand tu crains Dieu, tu vas t'efforcer de faire sa volonté. Tu vas pas sans arrêt juste écouter les désirs de ta chair, mais tu vas suivre la volonté de Dieu. Cette crainte de Dieu, c'est vraiment une base. Et tu l'as dit aussi dans ta pensée, souvent au début de la vie chrétienne, on a cette crainte de Dieu qui est là. Parce qu'on découvre qui est Dieu, on goûte à qui il est et on touche à sa sainteté. Et là, on se sent tellement... On était pécheurs, on n'était rien du tout. Et là, on voit cette sainteté, ce Dieu extraordinaire, et il y a une crainte qui vient. Et puis, comme tu l'as dit, cette familiarité peut s'installer. Et c'est vraiment ça le danger. Tu as vraiment mis le doigt sur le problème dans la vie chrétienne, cette familiarité qui fait que on méprise un petit peu qui est Dieu et sa sainteté.
Et, je me souviens, dans nos jeunes années, avec mon mari, quand on était à l'école biblique, il y avait un frère burkinabé qui était arrivé quelques temps après la rentrée. Et puis... la première semaine, on avait parlé avec lui et puis il nous avait dit, ben il y a vraiment quelque chose qui me choque chez vous les blancs. Mmh. Il dit je trouve que vous approchez de Dieu avec tellement de légèreté. Mmh. Il nous avait dit ça avec simplicité. Il dit nous dans notre pays on apprend à s'approcher des gens des gens en autorité avec révérence. Mmh. Il dit je trouve que quand vous vous approchez de Dieu vous êtes vraiment léger et familier. Et ça m'avait tellement fait réfléchir et ça m'a beaucoup marqué dans ma vie de prière. Oui, c'est notre papa du ciel, mais le fait de le considérer comme notre papa du ciel, ça ne doit pas nous dispenser de la révérence.
Exactement.
Parce que Dieu est aussi... Oui, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu redoutable. Mm-hmm. C'est aussi un Dieu qui impose le respect. Mm-hmm. Et si on perd cet aspect-là de la chose, on va, au niveau de notre sainteté, tout de suite, on va régresser. Parce que notre sainteté, comme tu l'as dit, est étroitement liée avec la crainte qu'on a de lui. Parce que si on a la crainte de Dieu, on va prendre au sérieux Dieu et ça va nous amener à la sainteté.
Exactement. C'est ce que Frank, tu disais dans ta pensée, tu as parlé d'intimité. Tu disais que normalement, plus on est proche de Dieu, plus on devrait le craindre. Oui. Et c'est vrai, effectivement, que dans la culture européenne ou en tout cas occidentale, c'est vrai qu'il y a une facilité de s'approcher de Dieu comme ça... sans forcément avoir conscience de qui il est et de à qui on s'adresse.
Mais
en
c'est
fait.
Un bon moyen justement de savoir si on a une réelle intimité oui. avec lui ou si on participe à une vie chrétienne. Mmh. Et si on participe à une vie chrétienne, on tombe facilement dans la familiarité. Ouais. Oh, Dieu ceci, Dieu cela, bon, Dieu premier, Dieu deuxième, Dieu troisième. La parole de Dieu, autorité, un jour, lundi, oui, mardi, non, ça me plaît plus. Et lorsqu'on a une intimité, on a aussi une constance, une croissance spirituelle qui fait qu'on ne néglige pas Dieu. L'intimité nous pousse à nous approcher encore plus de lui et à poser des actions parce qu'on l'aime. Et la familiarité, en fait, va produire des fruits de négligence dans notre relation avec Dieu, oui. tout comme on pourrait le vivre dans notre vie avec d'autres personnes. Le fait de côtoyer quelqu'un, mais de ne pas le respecter, de ne pas l'aimer vraiment, on tombe dans la familiarité. On ne considère pas ce que l'autre veut, on ne considère pas son avis, et on ne fait pas un effort supplémentaire pour lui plaire. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on n'a pas cette attitude-là, ça veut dire qu'on est tombé dans la familiarité et qu'on doit se repentir d'avoir manqué de crainte de Dieu et se dire bah, « j'ai besoin de m'approcher de toi et de revenir à ce Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est redoutable et qui est saint. Et je ne peux pas rester dans cet état-là devant lui, je dois changer. »
Exactement.
Tout est merveilleux en Dieu. Il est vraiment extraordinaire, il est glorieux. Et on devrait penser à lui quotidiennement. Je sais que parfois, il y a des chrétiens qui ne pensent pas vraiment à Dieu. Ils arrivent le samedi, ah, c'est vrai, demain, il y a l'église, je dois lire ma Bible, etc. Mais craindre Dieu, c'est savoir qu'il est là aussi chaque jour, quotidiennement. Respecter la personne du Saint-Esprit, désirer le connaître, aimer sa parole, passer du temps avec lui. J'aime Dieu et je pense à Dieu. Il est extraordinaire. La présence du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de glorieux. Il y a rien qui soit comme la présence de Dieu. Il y a rien. Quand sa présence vient sur nous, il peut venir comme ça, tout à coup, il vient nous visiter. Et sa présence descend avec intensité et c'est là qu'on réalise sa grandeur. On a besoin de faire des expériences avec Dieu.
Oui, vraiment.
De vivre des choses fortes dans la présence de Dieu. Parce que sinon, on va être vraiment terre à terre.
Ouais.
Et nous savons qu'il revient. Et l'apôtre Pierre, je crois, en parlant de son retour, il dit « Quelle ne devrait pas être votre sainteté et votre crainte de Dieu ?»
C'est ça.
On devrait craindre Dieu. La sainteté, la façon de gérer, en fait, tout dans notre vie. Des fois, on voit l'aspect religieux, le fait d'aller à l'église, de lire la Bible et de prier.
Ouais.
Mais ça, ce n'est pas vraiment la crainte de Dieu. Non. La crainte de Dieu, ça va toucher le plus profond de notre être.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait dans nos relations? En fait, plus on va s'approcher de lui... Et plus sa lumière va éclairer tout en nous.
Oui.
Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, ils étaient loin de Dieu. Chacun se tenait à la tente, ils avaient peur.
Mmh.
Ils écoutaient le tonnerre, etc. Et ils restaient.
Oui.
Mais il y en avait un qui allait dans la tente.
Oui.
La tente de la rencontre. Et encore un qui allait sur la montagne à la rencontre de Dieu parce qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur que Dieu aussi lui dise des choses à changer. Mais parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il craignait Dieu, il était prêt à changer pour
c'est
lui.
Ça.
La présence de Dieu, c'est merveilleux. Et je prie que... ceux qui nous écoutent, ils aient ce désir de vivre une expérience avec Dieu parce que ça commence là. Je crois que beaucoup veulent se sanctifier, beaucoup de gens veulent avancer avec Dieu, mais sans expérience avec Dieu, c'est difficile,
mm-hmm.
c'est dur, c'est la chair est faible, il n'y a pas de...
On est sans arrêt en lutte en fait.
C'est ça, c'est tellement dur, mais quand on le rencontre, quand on vit quelque chose avec lui,
oui.
tout à coup, c'est, la vie chrétienne, c'est plus quelque chose de religieux, c'est une intimité, c'est une relation, c'est une fraîcheur, c'est une intensité, c'est quelque chose du ciel qui vient sur nous.
Mmh.
On commence à le connaître. Et je prie que ceux qui nous écoutent, il y a un feu en eux,
ouais.
à nouveau, un désir de vivre quelque chose avec Dieu. Et il a clairement dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous.
Ouais.
Si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. C'est résolu, c'est absolu, c'est une vérité. Il viendra, il va s'approcher de nous. Et là, on va découvrir ce qu'est la crainte de Dieu parce qu'il va nous l'enseigner lui-même.
Mmh.
Il y a un temps, ça m'avait vraiment travaillé cette histoire de crainte de Dieu. Puis je lisais des versets sur la crainte, j'ai dit, mais la crainte, ça veut vraiment dire de la peur. Puis j'ai dit, mais pourtant Dieu est bon, Dieu m'aime. Je comprenais pas, ça buguait dans ma tête, mais j'ai dit, non, il y a vraiment un truc. Puis j'étais allée un peu creuser, j'avais vu, non, c'était vraiment le verbe craindre, avoir peur, même être terrifié. J'ai dit, mais là, je comprends plus, Seigneur. Et là, vraiment, j'ai compris quelque chose de fondamental. C'est que la seule chose qui dispose le cœur de Dieu à notre égard, c'est le sang de Jésus. C'est la seule chose.
Ouais.
Et on a à craindre Dieu encore plus quand on n'a pas Jésus dans notre vie. Parce que Dieu est un Dieu redoutable. Et la faveur qui est sur notre vie, elle n'a été acquise que par le sang de Jésus à la croix. Et oui, Dieu est redoutable et oui, Dieu est à craindre. Et même, il doit nous, Il doit vraiment nous inspirer de la frayeur si on n'est pas couvert par le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est quand je me suis interrogée là-dessus, j'ai vraiment compris ça. Puis le sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est toute la différence, et ça fait qu'on va. C'est ça et uniquement ça qui fait qu'on échappe à la colère divine.
Mm-hmm. C'est vrai. Tu as parlé d'avoir peur. Oui,
j'en perds mes mots. J'en bafouille.
La question qu'on a posée justement à notre sondage, nous vous avons posé la question, selon vous, que signifie craindre Dieu? Vous avez été 3% à répondre avoir peur de Dieu, 96% respecter Dieu et 1% je ne sais pas. On voit que dans la théorie, c'est plutôt bien maîtrisé. Il y a 3%, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que quand le sang de Jésus ne nous couvre pas, on doit en avoir peur. Exactement, même, effectivement. Oui. Et on voit que la théorie est bien comprise. 96% disent c'est respecter Dieu, c'est le révérer, etc. On en a parlé. Mais comme on le disait au début d'émission, dans la mise en pratique, c'est pas toujours ça. Et c'est là que c'est important vraiment de pouvoir mettre en pratique ce qui a été partagé sur ce plateau aujourd'hui, de pouvoir comprendre cette importance-là et de prendre une vraie décision aujourd'hui, de dire aujourd'hui, je veux vraiment avoir une révélation sur qui est Dieu, qui il est vraiment dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, une vraie compréhension de qui il est, de sa sainteté, de sa toute-puissance, de sa seigneurie, etc. D'avoir vraiment cette conscience-là. Parce qu'on voit que quand Jean s'est retrouvé devant le Seigneur dans Apocalypse, il est tombé comme mort par terre. Tellement la sainteté du Seigneur était extraordinaire. On ne peut pas résister dans sa présence, on ne tient pas dans sa présence. Exactement. Et quand on découvre ne serait-ce qu'une portion de sa sainteté, on est obligé de le craindre. Mmh. Et pour terminer le temps de discussion, on va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 111 au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et vraiment, je prie que ceux qui nous écoutent puissent être des hommes et des femmes remplis de sagesse. Amen. On commence par la crainte de Dieu, comme on l'a dit.
C'est
le fondement. Ouais. Si on n'a pas ça dans la vie, on va partir de travers. On va pas être capable de marcher vraiment selon le plan de Dieu. Donc, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne qu'on peut avoir, et je suis sûre que nous autour de cette table, tout comme moi personnellement, je me remets encore en question par rapport à ça. Ouais. Effectivement, est-ce que réellement j'accorde à Dieu le respect qui lui est dû? Est-ce que je lui accorde la révérence qui lui est due? Et je crois que non. Je crois qu'on doit persévérer toujours dans ce domaine-là pour être de plus en plus agréable à Dieu et puis marcher comme il le veut qu'on le fasse. Amen. Et on voit, Annabelle, on va continuer avec la rubrique famille, que bon, on craint Dieu, on respecte Dieu, mais on doit aussi respecter nos maris selon ce que dit la parole de Dieu. On va regarder ça tout de suite dans la rubrique famille. Annabelle, comment on peut faire pour respecter nos maris? Dis-nous!
Ah, Annabelle, il est juste à côté.
Nous les femmes, comment faire? Non, on a parlé la semaine dernière avec toi, Frank, de l'importance d'aimer sa femme.
C'était puissant.
C'était puissant, j'en ai
ça
vu.
Ça a changé ta vie?
Amen.
J'en ai vu.
Ça va changer la mienne.
J'en ai vu les fruits dans ma demeure, en tout cas. Frank, merci. Ouais, ouais.
Jonathan, si tu m'écoutes, écoute la rubrique de
Gloire à Dieu.
Mais aujourd'hui, mesdames, c'est à vous de passer à la casserole. Désolée, il fallait équilibrer.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, on va parler. On est parti de ce verset qui dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit respecter son mari. C'est quelque chose de réellement important parce qu'en fait, le mari, les hommes, ont besoin de ça. Plus que d'être aimés, ils ont besoin d'être respectés avant tout.
Et comme on l'a dit dans cette première partie de l'émission, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si nous voulons être cette femme chrétienne qui respecte son mari, on doit d'abord craindre Dieu. Et si on craint Dieu, ben en fait, on va facilement, en tout cas plus facilement, trouver notre place et accepter les façons de respecter notre mari. Donc je vais lire dans 1 Pierre 3:1 le verset, un verset que tout le monde connaît finalement, en tout cas que toutes les femmes connaissent. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse et que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et en fait, de ce verset, on peut vraiment tirer de grandes révélations en tant que femme, comment puis-je respecter mon mari? Et la première chose, le premier point que je vais aborder, c'est ce que je me dis de mon mari. Alors c'est sûr, il y a plein de choses à dire dans cette rubrique. On pourrait s'attarder sur tous les domaines de la vie, l'éducation, le couple, etc. Mais ça va être quand même assez général. Mais la première chose, le premier point, c'est ce que je me dis de mon mari. Pourquoi? Parce que ma communication intérieure, comme les pasteurs Alberto Acarbone appellent ça, c'est ce dialogue qu'on a en nous-mêmes. On se fait des questions-réponses, on se fait des scénarios, on se dit des choses, etc. Et on ne peut pas négliger cette communication intérieure. Et on doit être honnête et se dire vraiment, qu'est-ce que je me dis de mon mari? C'est quoi ma pensée profonde de mon mari? Est-ce que je me dis, c'est un gros nul, c'est un raté, c'est un échec, il me dégoûte, il m'énerve, il a encore fait ci, il a encore fait ça.
Ah, voilà, tu l'as fait pleurer.
Attends, ça va aller mieux après.
Ouais, gros, hein. Nul peut-être, mais pas gros. Oh. Non, je ne dis pas ça. Hein.
Et en fait, tout ce qui est caché en nous, c'est ce que Dieu appelle la parure intérieure et caché du cœur. Est-ce que c'est réellement une parure qu'on a, ou alors est-ce que c'est plutôt une petite poubelle qui est en train de qu'on remplit constamment, et il y a de la pourriture qui commence à s'amonceler, et on doit savoir vraiment qu'est-ce que je me dis de mon mari à moi-même, quel est mon dialogue intérieur, parce que on lit dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, on se dit, bon bah, après tout, c'est moi ce que je me dis de mon mari, personne ne le sait, lui-même ne le sait pas, c'est secret. Et justement, c'est secret. Et si on a cette crainte de Dieu, c'est des pensées qui n'ont pas de place, en fait, à avoir dans notre cœur. Et si on a cette crainte de Dieu, même si on n'a pas encore l'impression d'être cette femme qui respecte notre mari, on va se dire, il y a quelque chose que je dois ajuster dans mon cœur. Si personne ne connaît mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Ouais. Dieu connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est très rare que ces choses vont rester seulement secrètes et que ça va jamais sortir. Là, vraiment, la parole nous dit que il y a quelque chose qui va sortir de l'abondance de notre cœur par notre bouche, et que de notre trésor ou de notre mauvais trésor, il y a aussi quelque chose qui va sortir. Donc, forcément, on va se trouver confronté à des attitudes, à des paroles à cause de notre attitude cachée. Donc, première chose, qu'est-ce que je me dis de mon mari? Ne vraiment pas négliger ce point, parce que ça va être un peu la base. C'est finalement ce point entre Dieu et moi. Est-ce que mes pensées sont claires? Est-ce que vraiment je suis prête à vouloir changer? Je suis prête à vouloir me soumettre à Dieu? Et l'autre chose, oui, c'était « Ai-je un cœur doux et paisible ?» Parce qu'on a lu dans le verset « La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Est-ce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est intérieur? Et si à l'intérieur de nous, on voit que on est complètement agité, irrité, énervé quand on pense à notre mari, ça va être difficile d'être une femme respectueuse. Même si on essaye après d'être genre gentil, mais si vraiment il m'irrite,
ça va ressortir.
Oui, ça va sortir. Et tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Michal avec David. Et vous, peut-être que vous vous souvenez de l'histoire, elle le regarde par la fenêtre parce qu'il est en train de danser et tout. Et en fait, pendant qu'elle le regarde, elle l'observe. Et là, elle a cette communication intérieure qui dit, mais il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de se ridiculiser. Et c'est ça qu'elle est en train de se dire. Et quand elle le voit, c'est ce qu'elle va lui dire. Et on voit la division que ça amène dans cette famille, dans ce couple, comment cet homme ne s'est pas senti respecté alors que pour lui, il était en train d'honorer Dieu. Et cette femme n'a pas saisi quel était le respect qu'elle devait à son mari parce qu'elle a eu cette mauvaise communication intérieure. Donc voilà pour le premier point, ce que je me dis de mon mari. La deuxième chose, c'est ce que je dis à mon mari. Alors, ce que je dis à mon mari, ça va forcément, oui, dépendre de ce que je me dis de mon mari. On l'a dit, cette femme, elle a parlé à cause de l'abondance de son cœur. Alors, comment est-ce que je parle à mon mari? Et ça, je pense que c'est un des grands points sur lequel on peut travailler au niveau de notre manière de respecter notre mari. Et c'est une des façons que nous, les femmes, on a de pouvoir vraiment démontrer du respect ou démontrer du non-respect. La manière dont on va s'adresser à notre mari, les choses pour lesquelles on s'adresse à notre mari, quel ton ai-je quand je parle à mon mari? Est-ce que je le considère comme un enfant? Est-ce que je parle à mes enfants comme je parle à mon mari? Ok, va te laver les mains, mets-toi à table. T'as fait tes devoirs. des paroles d'accusation. Ouais. Tout le temps, tu fais jamais si, c'est douloureux pour toi.
Ça va.
Ok.
Bah, c'est douloureux si c'est ce que tu fais, mais.
Non. il a validé ma rubrique.
J'aurais pas dû mettre Jérémy sur le plateau. Aujourd'hui, t'es intimidée, c'est ça?
Non. Et donc, les paroles d'accusation, parce que souvent, et on doit être vigilante en tant que femme, on est prise dans notre quotidien, etc. Et devant le travail à faire, quelquefois, dans un quotidien bien occupé, nos yeux voient, il y a ça à faire. Et puis, quelquefois, votre mari rentre à la maison, il n'a pas cette même vision que vous. Et dans votre liste de priorités, il choisit de faire quelque chose qui n'apparaissait même pas dans la liste. Et là, ça peut faire monter une irritation soudaine.
Ça, ouais, hier. Yes. J'ai même médité sur ça parce qu'elle a vraiment très bien réagi. Puissant.
Et est-ce que détails.
J'ai fait une petite bêtise.
Ah mais tu vois. Est-ce que je vais l'accuser? Est-ce que je vais constamment souligner ses erreurs, ses manquements, particulièrement devant les enfants, ouais, devant dans la famille? Mmh. Comment est-ce que je lui parle? Comment est-ce que je le considère? Et en fait, une des façons aussi de pouvoir montrer n'adresse pas notre mari, c'est de pouvoir lui montrer qu'on l'encourage, qu'on croit en lui, qu'on croit que, particulièrement si nous sommes une famille chrétienne, que c'est un homme de Dieu, un homme qui sait entendre Dieu. Et souvent, on entend dire, les femmes sont plus spirituelles, sont plus sensibles à l'esprit. Et souvent, moi, j'ai entendu des femmes dire, oh, de toute manière, devant leur mari, hein, oh, de toute manière, toi, tu lis pas trop ta Bible, oh, toi, faut que le Seigneur te parle vraiment beaucoup de fois pour que t'écoutes. Bah, franchement, ça ouvre pas son cœur, quoi. Donc, c'est de pouvoir encourager, être une femme de foi au côté de son mari, de le célébrer dans ses réussites, dans ses entreprises aussi. Et nous, quelquefois, bah, tous, à un moment donné, on commence quelque chose et on a besoin d'encouragement. Et quelquefois, quand c'est l'homme dans le cadre du couple et qui commence quelque chose, qu'il a l'initiative de quelque chose et que c'est encore au stade du commencement, on est plutôt assez critique et puis peut-être un peu piquante quelquefois, alors qu'on devrait être la première personne à l'encourager, à dire ok, tu sais, je suis à tes côtés, je crois dans ce que Dieu t'a dit, je crois dans ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment une très grande forme de respect à démontrer à notre mari, de lui montrer qu'on croit en lui et qu'on croit que c'est un homme de Dieu, peu importe là où moi j'ai l'impression de me situer par rapport à lui dans la vie spirituelle. Et l'autre chose, ce que je dis à mon mari, c'est est-ce que je lui demande ou est-ce que je l'informe? Alors ça aussi, c'est un point, et j'ai souvent peut-être au début du mariage, il y a plusieurs femmes qui disent qu'elles ont vécu ça, t'habitues à faire ta vie, etc., t'informes ton mari de ce que tu fais. Et là, il n'y a pas de communication, et en fait, un mari... un homme, s'il veut se sentir respecté, il doit se sentir considéré. Mmh. Le respect, c'est de montrer une considération à l'autre. C'est ton avis compte. Je ne veux pas diriger ma vie comme moi je le veux. Donc, j'ai prévu de dire, bah écoute, j'ai prévu de partir voir ma mère pendant 2 semaines. La semaine prochaine, salut. ça, normalement, ça se fait pas. On n'informe pas. On discute. Mmh. On dit, ok, tu sais, j'aimerais bien aller voir ma mère. Est-ce que ça te pose un problème, etc. Et c'est de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, parce que beaucoup de femmes vont juste informer leur mari. Mmh. Et les maris disent, ok, bon, bah, elle fait sa vie. Elle s'en fiche de mon avis. Alors que, c'est un mari qui se sent respecté va de toute manière se sentir valorisé dans sa position de mari, de protecteur, de pourvoyeur. Oui. Et ça, mais ça peut peut-être qu'il va dire non. Audrey Mac raconte qu'elle voulait aller à une conférence à l'autre bout du pays une fois au début de son mariage et que là elle avait été célibataire pendant longtemps et qu'elle avait demandé à Fred si elle pouvait aller à la conférence. Je sais même plus si elle avait demandé, mais en tout cas elle voulait y aller et il avait dit non. Alors là ça avait été mais la mort à elle-même. Elle a dit que là elle a vraiment compris c'était quoi de respecter son mari, de se soumettre à l'autorité de son mari. Ça faisait 30 qu'elle faisait le tour de la, enfin pas qu'elle faisait le tour de la planète, mais en tout cas elle avait déjà fait le tour de la planète toute seule, elle avait été en Inde et je sais pas où, et là elle peut pas aller à une conférence. Elle dit, Mais elle s'est soumise à son mari, elle a accepté. Et ce que je dis à mon mari aussi, bah, quelquefois, c'est de rien dire à son mari. C'est d'apprendre à se taire, de connaître la valeur du silence.
J'ai cru vraiment. Ne pas lui dire quand on part quelque part.
Non! C'est la valeur du silence. Il y a des choses qu'on ne gagnera pas avec la parole. Et on va manquer de respect à notre mari parce qu'on va partir dans des disputes de mots et on va partir dans des altercations, ça n'aura pas de fin. Et si vraiment on n'est pas d'accord, si vraiment on croit que ce n'est pas le plan de Dieu, on va voir Dieu, particulièrement dans un couple chrétien. Ouais. Et puis on dit, bah, Seigneur, tu es son créateur, tu es son Dieu, tu peux lui parler. Et mieux vaut à ce moment-là se mettre du côté de Dieu plutôt que nous de nous mettre dans la chair et puis de combattre, parce qu'on va manquer de respect à notre mari à ce moment-là. On va dire des choses qui vont être blessantes et qui vont avoir des répercussions par la suite. Mmh. Et le dernier point, c'est ce que je dis de mon mari. Mmh. Et ça, c'est aussi très important. C'est la manière dont je parle, en fait, de mon mari aux autres personnes. Et pour savoir un peu où on en est, c'est très facile. On peut juste demander ou alors s'imaginer ce que les gens peuvent se dire et quelle image ils peuvent avoir de notre mari sans qu'ils ne l'aient jamais vu. Avant même de l'avoir vu, qu'est-ce que tu penses de mon mari? Je pense que c'est un gros rustre, un homme complètement borné, buté, sans intelligence. Ça veut dire que tu n'as pas fait une bonne pub de ton mari, ça veut dire que probablement tu n'as pas valorisé ton mari, tu n'as pas montré de respect à ton mari, alors peut-être derrière son dos, mais aussi souvent devant lui.
Devant lui,
oui, voilà, devant lui, avec les enfants, notamment avec les enfants. Qu'est-ce que je peux me permettre de dire devant les enfants? Il y a des choses, vraiment, ça se règle en dehors. Devant les enfants, on est d'accord, on montre une unité parfaite, et après, on règle nos choses. Et en fait, cette règle devrait s'appliquer pour toutes les sphères de relations qu'on peut avoir. On dit, on lave pas notre linge sale
en public.
Et c'est vrai parce que ça, quelquefois, en tant qu'épouse, on a du mal à être rattachée à une prise de position de notre mari, surtout si on ne partage pas sa prise de position. À être associée, le regard des autres peut être lourd et difficile. Mais en tant que femme devant Dieu, aux yeux de Dieu, on n'est pas appelé à prendre position pour des prises de position. On est appelé à prendre position en tant qu'épouse et de marcher dans le respect. Et le respect va s'appliquer que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord. Et particulièrement lorsque je ne suis pas d'accord, est-ce que je vais continuer de respecter mon mari, surtout face aux autres? Est-ce que je vais le couvrir? Est-ce que je vais le protéger? Ou alors est-ce que je vais être la première à dire, de toute manière, écoute, vous le savez tous, moi, j'étais pas d'accord avec lui.
Ouais.
J'étais pas dans ses histoires. Et si on ne fait qu'une seule chair, bah, le discrédit qui peut tomber sur lui, même si j'étais pas d'accord, va tomber sur moi aussi et je l'accepte. Et on va régler ça en privé. Et à ce moment-là, oui, c'est difficile de le vivre comme ça, mais à ce moment-là, mon mari voit que je le respecte, voit que je suis pas en train d'agir comme le reste du monde. Et c'est ce qui va faire la différence. Ce qui va faire qu'il dit, mais cette femme me respecte. Je me suis trompée. J'ai mal fait, ou alors personne me comprend, mais elle me respecte.
Ouais.
Et c'est là qu'on doit aussi trouver notre position et comprendre pourquoi le respect est aussi important. C'est parce que ça nous lie en tant que mari et femme, ça sauve des couples, ça protège des couples. Mmh. Et quelquefois, en tant que femme, on veut peut-être avoir raison, on veut peut-être donner une certaine image. Et en fait, on mène au mariage en péril. Et c'est pour ça, on doit se battre pour devenir et rester et grandir dans cette femme pour devenir cette femme qui respecte vraiment son mari, parce qu'il y a tout un enjeu derrière. Et Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et c'était pour elle, c'était pour lui, mais c'était aussi pour les autres. Et si elle pensait à lui en disant Abraham mon Seigneur, tu dis pas Abraham mon Seigneur le gros nul. Tu vois, tout de suite, ça te remet les idées en place. Et si tu appelles après ton mari Jérémy mon Seigneur, je te déteste, tu m'énerves, ça fonctionne pas non plus. Si j'appelle Jérémy mon Seigneur devant tout le monde, ce qu'il aimerait beaucoup.
Je sais pas.
Je trouverais ça bizarre.
Je pourrais pas non plus dire autre chose pour le discréditer. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce que je me dis de mon mari lorsque j'ai une communication intérieure qui n'est pas bonne, c'est que ça pousse à la cachotterie et aux actions secrètes. Ouais. C'est que il y a des choses, bah, je le respecte pas à l'intérieur de moi-même, je veux juste pas le faire savoir, mais forcément je vais faire des choses en cachette. Notamment, je voulais vraiment le préciser pour l'éducation des enfants. Mmh. Je ne respecte pas sa façon d'éduquer les enfants, donc il va dire telle chose, il va faire telle chose, il va punir les enfants, par exemple. Mmh. Il punit les enfants, ok, pas de téléphone, il a le dos tourné, tiens, je te redonne un téléphone. Mmh. C'est comme ouais, ça, c'est t'as plus d'argent de poche, non, je dois ouais. te donner de l'argent ouais, de poche. Et ça, c'est parce qu'à l'intérieur, on manque de respect pour notre mari ou pour sa façon de faire, et on va... Ça va souvent amener des actions secrètes et des cachotteries ça, qui, au final, vont le discréditer et amènent de la division parce que c'est des choses qui sont faites pas dans la lumière. Mmh. Donc voilà, femmes, je vous encourage à respecter vos maris, à chercher du secours auprès de Dieu et à être cette femme qui craint Dieu avant tout pour construire sur cette crainte de Dieu et accepter d'être cette épouse qui prend position pour son statut d'épouse et non pour des prises de position, pour des avis, pour le regard des autres et de vous battre pour votre mariage en devenant cette femme respectueuse, même si quelquefois ça peut être vraiment difficile selon les contextes. Mmh.
Merci Annabelle. Bon. Jérémy, en tant qu'homme, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
avant? Moi, je suis profondément béni d'avoir une femme comme Annabelle Evelyne.
Je pensais pas à ça, mais tu peux le dire aussi.
Oui, je voulais le dire. Je suis profondément béni.
Alléluia. On est
elle vit ce qu'elle prêche.
Tu es béni. Mais alors, tu voulais ajouter autre chose?
Non. Que parfois, par rapport à ce qu'elle a partagé en dernier, ce que je dis de mon mari, mm-hmm. Devant les gens, je sais que parfois, les femmes vivent des combats intérieurs, à la maison, en cachette. Et profitent du fait d'être avec des gens pour pouvoir le dire, en fait, pour pouvoir exprimer leur malaise, leur mal-être. Et c'est pour ça aussi qu'on voit pas mal de femmes qui vont parler mal de leur mari parce qu'elles se disent, il y a quelqu'un en face de moi, un autre couple, par exemple, je vais pouvoir dire, ah voilà, oui, mais toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela. Et des fois, ça devient des disputes et des règlements de compte. Et c'est aussi parfois ça, les femmes vivent des choses à la maison difficiles et elles ont de la difficulté à trouver de l'aide autour d'elles. Je sais pas, mais comment, si je suis une femme, et que je ne suis pas, bien sûr, et que j'ai de la difficulté à la maison, j'arrive pas à en parler avec mon mari, comment est-ce que je peux aller voir une autre femme pour en parler?
Oui, parfaitement.
Oui. C'est un pasteur, j'ai une question.
C'est une question.
Non, mais c'est vrai. Mais après, là, tu sais, je parlais plus de la façon dont on intervient dans la vie courante, etc. Mais oui, faut pouvoir aussi s'exprimer, aller chercher de l'aide.
En fait, tout dépend avec le cœur avec lequel le fait. Si on le fait dans le but juste de vider son sac et de médire sur le dos de son mari, ben là, ça va porter aucun fruit. Mais si on veut chercher du secours, c'est différent.
Je veux vraiment rajouter quelque chose pour compléter ce qu'a dit Annabelle. Vraiment être très méfiant des discussions entre copines où on va parler de choses intimes de notre couple à une copine. Parce que c'est précieux, la vie intime. Ce qui se passe dans votre chambre à coucher, ça ne regarde pas vos copines. Et il faut être discret parce que sous prétexte d'aller chercher conseil ou peut-être de partager des choses de copines, on va complètement discréditer notre mari et on va changer le regard que ces gens-là ont sur notre mari. Et il faut vraiment... Le mari passe avant les copines. Et si on a des choses à confier, c'est à Dieu et sûrement pas aux copines.
Merci Anne pour ce petit rajout. Bon, une super rubrique.
Je pensais qu'après on avait le temps de discuter, excuse-moi.
Non.
Non, t'as tout pris le temps.
Ah, pardon.
Tu as pris tout le temps.
Oh, excuse-moi.
C'était très bien, bravo.
Le temps qu'on lui avait donné.
C'était, oui, c'était à peu près.
Non, on devait parler normalement.
Ce n'est pas grave, Annabelle, tu as parlé pour nous. Non, mais merci beaucoup, Annabelle. C'était des points super importants que tu as partagés. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Donc, tu pourras en dire encore plus. On fera peut-être même une fois une semaine sur le couple parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On sait que les chrétiens sont vraiment attaqués dans leur couple. Ouais. Le diable, vraiment, une de ses cibles favorites, c'est de détruire la cellule familiale. Et puis, généralement, on commence par quoi? Par le couple. Donc, on aura des choses à redire. Donc, tout ce que tu n'as pas pu dire aujourd'hui, tu pourras encore le dire. Merci à vous tous pour cette excellente émission. Je vous rappelle, notre thème principal, c'était vraiment la crainte de Dieu. Donc, je vous encourage, vous, à la maison, à expérimenter vraiment une nouvelle dimension dans la crainte de Dieu. Je pense qu'on peut craindre Dieu un peu, mais on peut le craindre beaucoup et comme, surtout, il le mérite. Donc, vraiment, aller dans la parole de Dieu, chercher des versets qui décrivent qui est Dieu, combien il est saint, combien il est puissant, combien il est extraordinaire, combien il vous aime aussi, pour que vous puissiez vraiment découvrir un peu plus ce cœur que Dieu a et puis cette dimension qu'on ignore trop souvent par rapport à la seigneurie de Dieu. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Sois obéissant ». Donc, ça va être un petit peu dans la même lignée qu'aujourd'hui. Et nous aurons la rubrique « Flashback » avec toi, Anne. Tu vas nous parler de Douglas Scott, l'évangéliste. On se réjouit déjà. Merci à tous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.